Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est une plongée au cœur de la Révolution française que nous propose Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous allons évoquer le tribunal révolutionnaire qui a jugé les entreprises contraires à la Révolution un petit peu en 1792 et puis surtout de 1793 à juillet 94. Autant dire qu'il aura été l'instrument de la terreur, ce tribunal. Il ne se résume pas à la personne de l'accusateur public, le célèbre Fouquier-Tinville. Il n'a pas condamné seulement Charlotte Corday, Marie-Antoinette, Madame Roland, Danton et Robespierre lui-même, mais envoyé plus de 4000 personnes à la guillotine. Pour évoquer cette juridiction d'exception, j'ai le bonheur de recevoir un de nos grands avocats, fin connaisseur de l'histoire, Maître Henri Leclerc.
Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Patrick sur le tiercé.
Eh oui, il se trouve que nous célébrons aujourd'hui les 60 ans du tiercé. Ça rajeunit personne, hein, cette histoire. Pour l'instant, citoyenne Céline, ce sont les juges du tribunal révolutionnaire qui t'attendent.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Ici siège le tribunal criminel extraordinaire et révolutionnaire. Voici ce que l'on pouvait lire sur les lourdes portes de ce qui naguère avait été la grande chambre du Parlement de Paris. Alors on va les pousser, ces grandes portes très ornementées, dans le sillage du public friand qui, dès 8h du matin, s'engouffre sur ces gradins. On cherche des yeux sur l'estrade où siège la cour, l'accusateur public, facile à reconnaître aux grandes plumes noires qui ornent son chapeau, frappé fort au nom de la loi. Tel est le principe, et l'on pourrait ajouter mes ovoce qu'en vérité, cette cour judiciaire est aux ordres de l'exécutif, en l'occurrence le comité de salut public, officiellement elle-même émanation du législatif, la convention nationale. Il faut vous dire que cette période de la terreur n'est pas très propice à la séparation des pouvoirs, bien entendu, nous allons y revenir dans le détail. Les farouches défenseurs de la République en danger, attaqués au dehors, attaqués au dedans, disposent d'une arme imparable, le droit de faire arrêter, sans ordre explicite de la Convention, il faut le souligner, toute personne suspecte de conspiration. Une simple dénonciation venant d'un citoyen quelconque, et vous voilà passible d'un jugement musclé devant cette cour qui fait peur, évidemment. Et encore, on n'en est pas encore à la loi des suspects, qui elle sera votée à l'initiative du député Merlin de Douai, qu'on va bientôt appeler Merlin suspect, ce sera son surnom et c'est un peu comme ça qu'il est resté à la postérité. Du reste, cette loi des suspects n'intervient que le 17 septembre 93. Voilà ce qu'elle dit, cette loi, et je voudrais vous citer un extrait de son article 2 en détail parce que c'est assez spectaculaire, si je puis dire. « Sont suspects ceux qui, dans les assemblées du peuple, arrêtent son énergie par des discours astucieux, des cris turbulents et des murmures. » On se dit « Ah bon, est-ce que ça suffit ça pour être suspect ?» Mais oui, vous allez voir, on va plus loin. « Ceux qui... plus prudent, parle mystérieusement des malheurs de la République, s'apitoie sur le sort du peuple et sont toujours prompts à répandre de mauvaises nouvelles avec une douleur affectée, sous-entendu, enfin, autrement dit, feinte. Ceux qui ont changé de conduite et de langage selon les événements. Ben, si on devait considérer comme suspects tous les députés qui changent de langage et de conduite, ça ferait beaucoup de suspects, avouez-le. Qui, ajoute la loi, muet sur les crimes des royalistes, des fédéralistes, déclament avec emphase contre les fautes légères des patriotes et affectent pour paraître républicains une austérité, une sévérité étudiée. Qui se démentent dès qu'il s'agit d'un modéré ou d'un aristocrate, ceux qui plaignent les fermiers et marchands avides, contre lesquels la loi est obligée de prendre des mesures, ceux qui, ayant toujours les mots de liberté, république et patrie aux lèvres, fréquentent les nobles, les prêtres contre-révolutionnaires, les aristocrates, les feuillants, les modérés, et s'intéressent à leur sort, ceux qui, n'ayant rien fait contre la liberté, n'ont aussi rien fait pour elle. » Avec cela, vous n'aurez aucun mal à faire arrêter et suspecter qui vous voulez. On est dans le procès d'intention pur et simple. Or, il est reconnu, dénoncé par la loi elle-même. On est en plein délire. Les républicains aux abois s'en prennent à tout ce qui bouge, si je puis dire, et leur instrument, leur grande hache, c'est le fameux tribunal révolutionnaire. Alors ce tribunal, je vous propose de le découvrir de l'intérieur, à travers le cas d'un de ses jurés, un homme qui, disons-le d'entrée de jeu, a très peu fait parler de lui par ailleurs. Je dois sa découverte, comme tant d'autres du reste, au pape de la petite histoire, Gosselin le Nôtre, J'ai le Nôtre, vous savez, j'en parle très souvent. Il a donné toutes sortes de passionnants portraits des inconnus de l'histoire et notamment de l'époque révolutionnaire. Ces personnages qui jouent un rôle ponctuel dans un épisode particulier et puis disparaissent pour se fondre dans la foule immense des anonymes du passé. Eh bien, parmi ces petits destins un peu en marge de l'histoire, le nôtre a su isoler celui de Joseph Souberbiel. Personnage fougueux selon lui et pourtant très brave homme en tant que médecin. La première fois que le petit chemin personnel de Joseph Souberbiel croise le boulevard de la grande histoire, c'est un certain 14 juillet 1789, car Souberbiel va assister, figurez-vous, à la prise de la Bastille. À l'époque, il est simple officier de santé, c'est-à-dire qu'il exerce la médecine, il a une patente spécifique, mais pas de diplôme particulier. Ce jour-là, il réalise une tournée pour visiter ses malades et en passant dans le quartier Saint-Antoine, il entend que ça commence à s'agiter. Il y a des bruits inhabituels du côté de la Bastille. Alors par curiosité, il s'avance. Il n'est pas le seul à s'interroger. Il découvre cette foule qui est là, vous savez, au pied de la forteresse et qui bientôt va donner l'assaut. Et dans cette foule, vous avez des boutiquiers, des ouvriers, des gardes françaises, enfin d'anciennes gardes françaises qui avaient été démobilisées quelques jours plus tôt, toutes sortes d'employés. En quelques minutes, notre homme se retrouve au milieu des émeutiers. Et voici ce que nous dit le nôtre. Ni lui, ni personne ne sut jamais comment il s'est retrouvé armé d'un fusil. Ben, vous savez, il est comme ça, ça se passe dans le mouvement de foule. On est en train de distribuer des armes, il se retrouve avec un fusil et un petit peu malgré lui, disons-le, le voilà poussé vers l'intérieur de la Bastille. Le pont-levis est tombé, il se retrouve dans la cour, la première cour de la prison d'État, devenue depuis longtemps le symbole de l'absolutisme. Et on peut dire que dans cette espèce de tourmente, d'émeute, il est lui-même gagné par l'atmosphère. Bien entendu, c'est la première fois que Souberbiel, comme tant d'autres, découvre l'édifice de l'intérieur. Je n'oublierai jamais l'effroi qui s'empara de moi à l'aspect de ces cours et de ces cachots, écrira-t-il. Tout y était calculé pour frapper d'épouvante les malheureux prisonniers. J'ai visité depuis lors toutes les prisons de Paris. Pas une n'approchait de la lugubre et terrifiante Bastille. Et le nôtre d'ajouter, et ses réflexions avivent les regrets d'amateurs d'antiquailles. Quelle faute d'avoir détruit un si théâtral et monstrueux bibelot. En raison de sa célébrité mondiale, la Bastille conservée eût été pour les étrangers une attraction sans pareille. Et si vraiment le décor en était aussi rébarbatif que l'assure Souberbiel, elle aurait entretenu chez les générations successives la haine de la tyrannie. Ben oui, mais enfin, en attendant, cette Bastille, on l'a démolie. Vous savez qu'avec les pierres de la Bastille, on va construire notamment le pont de la Concorde. Et puis, on va fabriquer aussi des maquettes, des modèles de cette prison qui vont être envoyées dans tous les départements. Bref, Souberbiel est là, il reprend ses esprits, si je puis dire. Il soigne aussi, bien sûr, en tant qu'officier de santé, les victimes de la fusillade. Il est assisté d'un confrère, du reste, Denis de Marc Duclos, qui est un aide-major. Et puis, ensemble, ils vont transporter les blessés, qui sont une vingtaine, dans l'église des Minimes. Notre ami se dévoue à ses patients pendant 3 jours, et vous imaginez bien qu'il va dès lors pouvoir faire partie de ceux qui ont l'honneur de figurer au nombre des vainqueurs de la Bastille. C'est le titre très officiel qu'on leur décerne, titre pour ceux qui ont infligé au despotisme sa première défaite.
Jadis les rois races proscrites enrichissaient leurs partisans. Ils avaient maintes favorites, sans flatteurs, mille courtisans. Sous le directoire tout change, pourtant ne vous y fiez pas.
Clémentine Tilquin interprétant un extrait de l'opéra comique La fille de Madame Angot. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au tribunal révolutionnaire et à ce médecin qui en est devenu juré.
Alors justement, Céline, le moment est peut-être venu de vous présenter un petit peu ce personnage. En 1789, il a 35 ans puisqu'il est né en 1754. Il va vivre presque un siècle, hein. C'est assez extraordinaire. Il ne mourra qu'en 1846 sous Berbiel. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles il a eu le temps largement de témoigner de tout ça. C'est un Gascon, un homme de caractère, selon le nôtre, un brave homme, honnête et très expert praticien, plein de sollicitude pour ses clients. Le nôtre écrit que pour autant, rien n'autorise à penser qu'il fut l'un de ces turbulents qui, dès le début du règne de Louis XVI, souhaitait et préconisait un bouleversement total. Oh, pas du tout. C'est un sujet encore, tout à fait rangé, notre sous-Berbiel, au moins dans le début. Il a été l'élève d'un certain Jean Barseillac, on est là dans les années 1775, au tout début du règne de Louis XVI. Jean Barseillac est un médecin, moine cistercien, qui est entré dans les ordres en 1729, à l'âge de 26 ans, et qui a toujours vécu dans la plus stricte humilité, allant tête et pieds nus, dormant sur une planche, mangeant à genoux, et on le connaît sous le nom de frère Côme. C'est une véritable référence morale. Ce frère Côme donne ses soins aux malades, bien prodigue ses soins aux malades. Il va même fonder un hôpital pour les plus pauvres. Il est considéré comme un des plus habiles dans l'opération de la pierre, ce qu'on appelle la lithotomie. Vous savez, qui consiste à découper un calcul dans la vessie, dans le but de l'enlever, au moyen d'un instrument chirurgical qu'on appelle le lithotome. C'est une opération extrêmement délicate, parmi les plus difficiles qui soient. Eh bien, c'est lui, ce frère Côme, hein, c'est Jean Barseillac, qui a mis au point cette opération. Et à sa mort en 1781, Joseph sous Berbiel, est plus ou moins regardé comme son successeur. D'ailleurs, il va pratiquer à son tour, non sans succès, cette opération de la pierre. Entre-temps, je vous l'ai dit, il est devenu le héros de la Bastille. Il obtient son diplôme de docteur de chirurgie de la faculté de Paris en 1793. Est-ce que le fait d'être héros de la Bastille l'a aidé? Ça, je ne sais pas. C'est une possibilité. Il se trouve que politiquement, il mène une carrière parallèle, hein, puisqu'il devient major d'une division de gendarmerie. On est dans le moment où l'on lève partout des troupes. Et sur un plan personnel, il faut dire que Joseph Sous-Berbiel est marié. Il a épousé une certaine reine Lambert. Vous avouerez que pour un révolutionnaire, c'est un comble d'avoir épousé une reine qui lui a donné deux garçons et une fille. Or, en ce tout début de l'année 1793, le voilà appelé chez Robespierre qui souhaite le consulter. C'est pas le major qu'a convoqué Robespierre, c'est bel et bien le praticien, car l'incorruptible est atteint, disons-le brutalement, d'ulcère variqueux sur les jambes. Et il cherche quelqu'un qui connaît bien ces questions et qui serait capable de le soigner. On lui a conseillé de rencontrer Sous-Berbiel et bien ma foi, il le convoque. Et si vous me permettez cet anachronisme familier, le courant va passer entre les deux hommes. Sous-Berbiel trouve tout de suite Robespierre d'une grande élévation morale. Il lui rappelle peut-être un peu, d'une certaine façon, le frère Côme, vous savez, dans son côté très austère, comme ça. En tout cas, il ne tardera pas à devenir un intime du conventionnel et même bientôt son ami. Je cite le nôtre parlant de Joseph. Il ne voit que l'homme privé, doux, poli, simple, obligeant dans Robespierre. Il s'extasie sur les vertus du tribun et sur son désintéressement. Et Sous-Berbiel dira de Robespierre, il vaut mieux que tous. Je l'aime comme un frère, écrira-t-il, et je donnerai ma vie pour lui. Voyez qu'on est dans l'admiration pure et simple. Il semble que notre homme, par ailleurs, soit guidé presque malgré lui vers les allées du pouvoir, puisqu'il se trouve qu'il est établi médecin-chirurgien à la Conciergerie. Est-ce que ses relations privilégiées avec Robespierre ont aidé à cette nomination? C'est aussi une possibilité, mais on n'en a pas la preuve. Or, on est là en mars 1793. C'est le moment de la création, pour être tout à fait exact, de la réactivation du tribunal révolutionnaire qui, créé une première fois au moment de la chute de la monarchie en août 92, avait été suspendu en novembre. C'est les députés Jean-Baptiste Carrier, de sinistre mémoire, hein, ce sera bientôt l'homme des noyades de Nantes. C'est Carrier qui défend le 9 mars 1793, je cite, « l'établissement d'un tribunal révolutionnaire ». Cette cour d'exception est donc censée rétablir celle qui avait été fondée le 17 août. Et son but, c'est de juger toute personne suspectée de ne pas aller dans le sens de la Révolution et donc de mettre en danger les acquis de la République. C'est le principe même, et c'est l'origine et c'est la raison d'être de cette juridiction criminelle extraordinaire. Elle siège dans une dépendance de la prison de la Conciergerie, donc sur l'île de la Cité, à Paris, et évidemment, elle fait peur. Elle fait peur, cette juridiction, vous imaginez. La figure centrale du tribunal, nous allons y venir tout à l'heure, c'est l'accusateur public, qui lui-même est chargé de faire arrêter, de déférer devant le tribunal et de charger toute personne suspecte d'avoir commis un crime contre la République. Il y aura plusieurs de ces accusateurs publics, mais évidemment, celui qui est resté dans les mémoires, c'est l'effroyable Antoine Fouquier-Tinville, qui en 1793, donc à cette époque, à 47 ans, indubitablement, il aura été le plus charismatique de ceux qui auront eu à occuper ce poste. Alors au sein du nouveau tribunal, un tribunal dont vous avez bien compris la dimension politique, notre Joseph Souberbiel va être appelé à siéger en qualité de juré. Robespierre, vous l'avez compris, lui a communiqué la fièvre révolutionnaire, l'enthousiasme républicain. Souberbiel a accepté la fonction avec joie et, disons-le, il n'a pas craché sur le salaire journalier que ça va lui procurer. 18 livres par jour, c'est tout à fait confortable. L'histoire ne dit pas si les 18 livres en question sont payés en assignat, mais on peut imaginer que c'est le cas, hein, probablement. C'est donc en qualité de juré que notre homme, en octobre 1793, va devoir notamment se prononcer sur le sort de Marie-Antoinette. En tant que médecin, il a eu l'occasion d'examiner la reine déchue, puisque je vous ai dit qu'il était à la conciergerie, en poste à la conciergerie. Donc, au moment du transfert de l'ancienne reine, il l'a visitée dans son cachot. Il l'a mise au régime de l'eau de poulet, qui était un remède très apprécié. Et pour la santé de la prévenue, la ci-devant reine, il a tenté d'obtenir qu'elle soit déplacée dans une pièce moins humide, un petit peu moins insalubre. Et pourtant, il l'exècre, cette Marie-Antoinette. Il partage l'opinion de ses collègues. Le menuisier Trinchard écrivait à son frère, canonnier aux armées. Alors là, je vous le lis, mais c'est écrit avec des milliers de fautes d'orthographe, c'est incroyable. D'ailleurs, c'est totalement en style, vous savez, en phonétique. Hein. « Je t'apprends, mon frère, que j'ai été un des jurés qu'ont jugé la bête féroce qui a dévoré une grande partie de la République, celle que l'on qualifiait ci-devant de reine. » Souberbiel parle et écrit beaucoup mieux, je vous rassure, incomparablement. Est-ce qu'il aurait eu la main lourde? Disons tout bonnement qu'il est juré au tribunal révolutionnaire, ça veut tout dire. Il va envoyer à l'échafaud, dans une forme de surenchère plus ou moins maîtrisée, les Girondins, le duc d'Orléans, celui qui est devenu Philippe Égalité, les fameux 17 habitants de Coulommiers. On reviendra sur tout cela tout à l'heure, évidemment, avec maître Henri Leclerc, et Danton, et Camille Desmoulins. J'ai envie de dire, à qui le tour? C'est un solide juré, ce Souberbiel. D'ailleurs, Fouquier fait appel à lui quand les femmes condamnées déclarent être sur le point d'être mère. Vous savez, c'est un moyen qu'ont trouvé un certain nombre de personnes accusées. Elles disent « Moi, je suis enceinte, donc le tribunal ne va quand même pas condamner une femme enceinte. » Eh bien, quand c'est le cas, on envoie Souberbiel vérifier ce qu'il en est réellement, et les procès-verbaux de notre médecin ont été conservés, notamment deux diagnostics sur une couturière, la dame Drieu, et sur l'épouse d'un fermier général, la dame Kelly, qui l'eut apporté. Les deux procès-verbaux, entre nous soit dit, sont littéralement implacables. À l'image de son maître et ami, à l'image de celui qui est devenu son modèle, on peut dire que Souberbiel est incorruptible.
Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH et sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur Joseph Souberbiel, médecin juré du tribunal révolutionnaire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Nous sommes au cœur de l'histoire du tribunal révolutionnaire. Nous revenons à votre récit, Franck, sur Joseph Souberbiel.
Alors, évidemment, la terreur ne va pas durer éternellement. Elle dure jusqu'en juillet 1794, ce qu'on appelle les événements du 9 Thermidor. Que devient notre père Joseph, si je puis dire, à partir de ce moment-là? Eh bien, il redevient médecin, tout simplement. Il s'occupe de diverses associations charitables. Il faut savoir qu'un certain nombre de ses collègues jurés ont été jugés sous le directoire pour divers abus. Certains ont même été guillotinés à leur tour. Mais lui passe entre les gouttes. Il sort de l'histoire, si je puis dire. On n'entend plus parler de lui, notamment pendant toute la période du consulat. Et il va faire une petite réapparition dans les archives sous l'Empire. En effet, en 1808, il sollicite de l'empereur la Légion d'honneur, s'il vous plaît. Sa réputation comme opérateur de la pierre eût été pour un autre un titre bien suffisant à cette distinction, assure le nôtre. Seulement là, sa demande va rester sans suite. Je ne trouve son nom ni dans la liste des médecins ni dans celle des chirurgiens publiée par le premier almanach impérial de l'an 13. Même absence dans celui de 1811. La faculté l'aurait-elle éliminé du nombre de ses membres, se demande le nôtre. Le fait est que notre homme se révèle invisible. Est-ce que j'ai besoin de vous préciser qu'il n'est pas bien vu du tout, ce sous-Berbiel, dans les milieux royalistes et qu'il va renoncer à ses postes lors de l'avènement de Louis XVIII, le frère de Louis XVI, en 1814, puis en 1815, après les 100 jours, on dit que la duchesse d'Angoulême faillit s'évanouir à la rencontre de cet homme qui avait condamné la reine, sa mère, à l'échafaud, rapporte le nôtre. Ça ne le fait pas mourir. Pour autant, il est encore bon pied bon oeil en 1830, quand Louis-Philippe devient un roi constitutionnel à la faveur de la Révolution des Trois Glorieuses. Or, le nouveau roi citoyen va recevoir sous-Berbiel. En effet, c'est lui qui, au moment de l'inauguration des Galeries de l'Histoire de France, à Versailles, aura l'honneur de présenter à Sa Majesté toute une députation de ce qu'il reste en vie des vainqueurs de la Bastille. Ah oui, ça c'est populaire, la Bastille. On parle pas du tribunal révolutionnaire, là, bien entendu. Et le sous-Berbiel est tout fier. « Sire, dit-il à Louis-Philippe, nous formons les vœux les plus sincères pour la conservation de votre personne inviolable et sacrée. Nous souhaitons que votre auguste famille vive éternellement. » Et on dit que Louis-Philippe, qui pourtant était un homme très affable, s'est contenté de le regarder sans répondre. Il est vrai que son propre père, donc le duc d'Orléans, le fameux Philippe Égalité, avait été condamné par un jury dont sous-Berbiel était membre. L'histoire de cette époque, vous savez, très troublé et comme cela semé de rencontres improbables. Ce n'est pas la froideur de Louis-Philippe qui va dissuader sous-Berbiel de solliciter de nouveau la Légion d'honneur au moment du cinquantenaire de la prise de la Bastille. Vous voyez qu'il reste un peu comme le héros de la Bastille, si vous voulez. Il a la chance de vivre très vieux. C'est en vain, de nouveau, on a presque envie de dire heureusement. Sur le tard, Joseph sera... quand même pris de regret, il confiera à un de ses confrères qu'il a, je le cite, « regretté son vote à propos de Marie-Antoinette. Aujourd'hui, ajoute-t-il, je ne la condamnerai certainement pas. » À l'époque, il s'était montré tout à fait implacable. Joseph sous-Berbiel va passer ses dernières années au premier étage d'une maison de la rue Birague, à Paris. Selon le nôtre toujours, les meubles s'y entassaient sur les meubles, les tableaux sur les tableaux, les étoffes sur les étoffes, on eût dit un encan. Lamartine ira le rencontrer au moment où il écrit son Histoire des Girondins. C'est étonnant d'ailleurs, tous ces grands historiens du début du XIXe siècle qui écrivent sur la Révolution et qui vont rencontrer un certain nombre des témoins encore en vie. Il raconte Lamartine que c'est une servante qui lui ouvre la porte et il tombe sur ce nonagénaire, il a 91 ans sous-Berbiel, qui l'accueille alité sous des rideaux rouges, gesticulant et, nous dit Lamartine, toujours ivre des batailles du neuf Thermidor. Il garde en souvenir un moellon de la Bastille dans un coffret d'acajou que surmonte un drapeau tricolore et un bonnet phrygien. Et il raconte, bien entendu, aussi son expérience en tant que juré du tribunal révolutionnaire. Mais là, nous dit le grand poète, il le fait, et historien, il le fait sur un ton laconique. Monsieur le docteur sous-Berbiel mourra l'année suivante, exactement le 10 juillet 1846. Il était donc âgé de 92 ans, ce qui veut dire qu'à 18 mois près, il aurait pu voir renaître la République. Bonjour Maître Leclerc, merci beaucoup d'être avec nous. Alors avec vous, nous allons revoir ensemble cette histoire du tribunal révolutionnaire avec une pensée particulière pour un de ceux qui en a le mieux parlé, c'est Michelet. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand. Le tribunal révolutionnaire est à l'honneur aujourd'hui avec votre invité Henri Leclerc, avocat au barreau de Paris.
Alors nous avons jusqu'ici, Henri Leclerc, fait de la petite histoire grâce à Georges Lenôtre, à G. Lenôtre, à Gosselin Lenôtre. Nous allons maintenant entrer dans la grande, en quelque sorte, et rappeler ce qu'était cette juridiction d'exception. Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire de plus beau cas d'école d'une juridiction d'exception que ce tribunal révolutionnaire, fondé donc en mars 1793.
Écoutez, moi je suis bien entendu, en tant que juriste, en tant que militant des droits de l'homme, je suis tout à fait indigné et révolté.
Ancien président de la Ligue des droits de l'homme.
Président de la Ligue des droits de l'homme, je suis bien entendu révolté par le tribunal correctionnel, par le tribunal révolutionnaire. Mais je me trouve en présence d'un fait historique.
Oui, bien sûr.
Et il faut le comprendre. Et je suis un peu comme Clémenceau, qui a dit un jour à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés à l'époque, en 1891, il a dit en 1891, la révolution est un bloc indivisible. Ce qui est intéressant pour la petite histoire, c'est qu'il disait cela dans un débat qui avait lieu après une interdiction par le ministre de l'Intérieur d'une pièce de Victorien Sardou qui s'appelait Thermidor et qui était très hostile au tribunal révolutionnaire.
Et c'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, et moi je peux comprendre ça, puisque j'ai eu l'occasion de le faire souvent dans d'autres, sous d'autres formes, mais on avait tendance à aller chercher dans la Révolution ce qui plaisait et à rejeter le reste. Voilà. Et lui dit, on peut pas faire le tri,
en fait. Il répond à Reynac, qui est pourtant pas un monarchiste, mais il dit non, vous pouvez pas faire le tri. Pas bon, alors moi c'est mon avis aussi, il y a un mélange d'entre-là, de rêves, mais il y a des choses extraordinaires. Pendant que le tribunal révolutionnaire se tient, on va essayer de comprendre comment il se crée, qu'est-ce qu'il est, mais pendant qu'il se tient, juste au moment, on va juger Danton par exemple. On va juger Danton en mars à peu près 94. Au même moment, le 16 pluviose, en deux, c'est-à-dire février en gros, il y a un débat à la Chambre ou à la Convention. Et on abroge définitivement l'esclavage. L'esclavage. Et Danton, c'est une de ses dernières interventions, a une intervention magnifique, prémonitoire. Il dit « Jusqu'à présent, nous n'avons accordé la liberté que pour nous-mêmes et en égoïste. Je le dis aujourd'hui, les générations futures nous en seront gré. Nous venons de proclamer la liberté universelle. » Magnifique.
Ça, c'est lumineux, pour le coup. Oui.
C'est lumineux.
Et pourtant, on est
juste à ce moment, il y a le tribunal révolutionnaire, il va d'ailleurs se faire condamner un mois après. Et le même jour, la Convention vote l'extermination de la Vendée. Et on envoie les colonnes infernales de Thurau. C'est-à-dire que il y a un mélange de choses
l'ombre et la
lumineuses et de choses dramatiques. Alors, le tribunal révolutionnaire va se créer, il y avait eu les... Nous savons que la grande rupture, à mon avis, c'est pas l'exécution du roi, c'est pas les Tuileries, c'est la fuite à Varennes. C'est-à-dire que le roi s'est comporté comme un homme normal. Il est parti à Varennes. Ça, il y a eu quelque chose qui s'est écroulé à ce moment-là. Bon, alors après, il y a la prise des Tuileries.
En août 92.
10 août 92.
La chute de la monarchie.
La chute de la monarchie. Il y a une chose horrible qui se passe, c'est les massacres
de septembre.
De septembre. Massacre les gens qui sont imprisonnés. Il faut bien dire à ce moment-là que les gens, la vérité, c'est que les gens ont cru à la révolution et ils y croient encore. Ils pensent que ça va changer de ce qu'était l'horreur d'avant, mais ça va pas bien. Il y a un peu la famine, il y a un peu on crève de faim, la monnaie se casse la figure, on fait les assignats. Et donc il y a des responsables. Mais c'est vrai qu'il y a des responsables. C'est vrai que la Vendée et la Bretagne sont en situation d'insurrection. C'est vrai que les émigrés mènent une campagne freinée à Londres. Et puis qu'il y a une armée émigrée, qui est avec l'armée autrichienne. Brunswick, en plus, a menacé Paris. Or, nous savons qu'il agit au nom du beau-frère de la reine. Il a menacé Paris. Et donc, les gens sont révoltés. Et il va se passer cette chose effroyable que sont les massacres de septembre. On tue les gens dans les prisons.
Situation d'urgence, situation insurrectionnelle. Ah, et pour ceux qui défendent ce nouveau tout jeune régime, cette toute jeune république, la nécessité de la sauver,
c'est
en
ça,
quelque sorte.
Alors, voilà, c'est ça, c'est la nécessité de sauver la République. Pourtant, le même jour, au même moment à peu près, c'est Valmy. C'est-à-dire, vive la nation, les troupes françaises, Goethe dit, à partir de ce jour, quelque chose a changé dans le monde. Il y a quelque chose de formidable dans la victoire de Valmy. Et Dubourriez va trahir d'ailleurs après. Mais enfin bon. Et on dit, il faut un tribunal pour...
Même s'il y aurait beaucoup à dire sur le détail de la bataille de Valmy, mais enfin ça nous entraînerait
trop
loin.
Ça suffit les massacres anarchiques, en quelque sorte. Il faut un tribunal.
Et ça, c'est Danton.
Et c'est Danton. Et alors, c'est Danton qui crée le tribunal révolutionnaire, du moins qu'il crée, mais celui qui y pense. Et il le crée comme une institution républicaine. Il faut sauver la République.
Soyons terribles, dit-il, pour dispenser le peuple de l'être.
Il a dit quelques jours avant, de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace, pour parler des armées. Bon, c'est formidable. Et alors, il crée le tribunal révolutionnaire. Comment faire ce tribunal révolutionnaire? Alors, la justice d'Ancien Régime était absurde, mais implacable. C'était une justice de Parlement, etc. Et celui qui rédige ça en partie, c'est l'un des, justement, ce sont tous des avocats, ces gens-là, en grande partie, qui sont... Donc, la loi pénale a été complètement changée. On a créé les jurés, on a supprimé les parlements, il n'y a plus de magistrats professionnels. Et la première idée qu'ils ont,
Ce qu'on appelait les parlements, c'était les chambres d'appel.
Alors, je n'ai pas de chambre d'appel, mais en définitive, l'ensemble de l'organisation judiciaire était terriblement répressive. Il faut rappeler qu'il y avait la torture, qu'il y avait un certain nombre de choses. Bon.
Abolie quand même avant.
Quelles que soient les horreurs du tribunal révolutionnaire, je tiens à le dire, il n'y a pas eu de torture. Il n'y a pas eu de supplice. On a simplement coupé la tête aux gens. Vous me direz que c'est beaucoup.
Oui, non, mais on comprend ce que vous voulez dire. Oui.
Pour l'époque, c'est quelque chose d'énorme. Dans les pays européens, ça fait. On leur coupe la tête. On les a pas torturés. On les a pas. Non. C'est, alors. Le tribunal révolutionnaire. Donc, ils ont voulu d'abord faire un système d'ancien régime. C'est-à-dire des magistrats professionnels qui siégeraient en secret. Finalement, on s'est battus. Non. Ils sont battus, les républicains, les girondins, certains.
Au nom des nouveaux principes.
Au nom des nouveaux principes. Et on a fait un tribunal avec des magistrats, 3 magistrats et 15 jurés. Seulement, les magistrats étaient désignés par la Convention. Les jurés étaient désignés par la Convention. L'accusateur public était désigné par la Convention et nous assistons à un abandon total de l'indépendance du pouvoir judiciaire puisque nous avons un pouvoir législatif qui est tout puissant.
Alors attention, ça c'est très intéressant parce que vous nous dites en quelque sorte toutes ces émanations de la Convention donnent au pouvoir législatif la primauté, les pleins pouvoirs. Sauf que il faudrait peut-être pas oublier qu'il y a une autre émanation de la même convention qui est, enfin il y a les deux comités, mais surtout en l'occurrence le comité de salut public, qui lui est bien un organe exécutif et qui dicte sa loi au tribunal.
C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que tout émane du pouvoir législatif, puisque l'exécutif, le comité de salut public, et on verra bien le 9 Thermidor, dépend totalement de la convention, puisque le pouvoir judiciaire dépend totalement de la convention, et que la procédure est nouvelle. Et dans cette procédure nouvelle, il y a quelque chose qu'on n'a pas assez vu, à mon avis, dans le tribunal révolutionnaire, c'est qu'il a été décidé que les jurés opineraient en public. Ça veut dire que les jurés, les magistrats d'avant, opinaient en secret, le secret des délibérations, ça pose des problèmes toujours, mais secret des délibérations, on ne savait pas ce qui se passait, et on annonçait la sentence. Là, les jurés, depuis 1790, depuis la grande loi de réforme pénale, de réforme de la procédure pénale, opinent en public, c'est-à-dire qu'ils donnent leur avis personnel après la délibération. Et ça, ça va jouer, à mon avis. C'est-à-dire que les jurés, comme votre bon médecin, ils auraient du mal, quelquefois, à opiner dans un sens qui n'est pas celui qu'on souhaite. Et je veux, plus on parlait des jurés, il y a on va reparler de Michelet, à mon avis.
Oui, bien sûr.
Mais quelque chose que je voudrais dire là, si au moins quelques auditeurs pouvaient m'entendre, il y a un des plus beaux livres du XXe siècle, qui est le roman d'Anatole France qui s'appelle Les dieux ont soif, qui est l'histoire d'un jury sur cette dérive de la conscience, sur la dérive d'un type qui devient un monstre, mais en même temps avec des personnages extraordinaires, dont l'ancien noble Brotteau qui va être exécuté, etc., et qui représente un peu ce que pense un France. C'est un livre magnifique. Vraiment, lisez-le.
Hein. D'un grand écrivain républicain à un autre, vous avez cité ce chef-d'œuvre d'Anatole France, Les dieux ont soif. Nous allons parler dans un instant de Michelet et évoquer par la même occasion un certain nombre des procès qui se sont tenus devant ce tribunal révolutionnaire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
De la garde républicaine avec un extrait du Pâques à danser des sans-culottes. Nous sommes au cœur de l'histoire du tribunal correctionnel,
du tribunal révolutionnaire.
Oui, ne nous trompons pas avec votre invité Franck Ferrand, Henri Leclerc, avocat au barreau de Paris.
Alors maître Leclerc, vous nous avez parlé d'Anatole France. Je sais qu'il y a un des grands historiens français qui vous tient très à cœur, c'est Michelet, qui sur ce sujet, sur ce tribunal révolutionnaire notamment, a écrit des pages extraordinaires.
Alors, Michelet, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que je m'en souviens encore, j'avais 17 ans, j'avais passé mon premier bac et j'étais en vacances dans la maison de mes grands-parents qui étaient morts et j'avais 2 grands-pères instituteurs et je n'ai jamais su lequel avait amené ce livre. J'avais 4 grands-parents étaient instituteurs. Et il y avait l'histoire de la Révolution française et l'histoire de France de Michelet dans un livre complètement démantibulé.
Il avait été beaucoup lu.
Beaucoup lu. Et j'ai lu l'histoire de France de Michelet. J'ai lu l'histoire de France de Michelet. Et j'ai d'abord lu l'histoire de la Révolution, parce que c'était plus court. J'ai été enthousiasmé. C'est un livre lyrique, c'est un livre magnifique. Et depuis, j'ai lu l'histoire de France aussitôt après. J'ai passé 2 mois à cela, et j'en conserve un souvenir éblouissant. Michelet est un bon historien.
C'est un
immense écrivain.
Ah, oui.
Et puis, c'est un amateur de la République, c'est un amateur de la liberté, c'est un amateur de... Et vraiment, on voit son courage. Et vous savez, il parle avec la même émotion de Charlotte Corday et de Jeanne d'Arc. C'est extraordinaire. Les pages dans l'histoire de France sur la mort de Jeanne d'Arc sont bouleversantes et celles sur la mort de Charlotte Corday sont bouleversantes.
Alors venons-en justement à ce procès de Charlotte Corday qui montre le tribunal révolutionnaire pour une des premières fois sous son jour le plus dur.
Bon. Alors le tribunal révolutionnaire avait commencé avec quelques condamnations. Il avait surtout acquitté Marat. Le fameux Marat, qui était, je dirais, la pointe des montagnards, le plus violent.
L'acquittement de Marat, ça a été...
Ah ben c'est un triomphe.
Il
est porté en triomphe dans la rue,
etc. On le couronne de laurier.
Et Charlotte Corday, qui est une femme issue de la petite noblesse et qui habite Caen, vient à Paris. Est-ce qu'elle a été manipulée par les Girondins, Brissot, etc. Bon, il semble que non, mais enfin, bien, on peut en parler. Pour Michelet, non, mais enfin, pour les autres, un peu. Enfin, toujours est-il qu'elle vient, elle achète un poignard, et Michelet était très malade. Il était toute la journée, il avait
une espèce d'examen.
Marat était très malade, il était dans sa baignoire, et elle arrive et elle le poignarde. Terrible. Dans Paris, Paris s'insurge. Tous les Parisiens sont dans la rue. Pour personne, Marat n'était un... Bon, c'était terrible. Alors.
Le martyr de l'ami du peuple.
Le martyr de l'ami du peuple. Et on juge tout de suite Charlotte Corday. Alors, elle répond. Le président est un dénommé Montané, qui va d'ailleurs essayer de la sauver. Qui veut qu'on la fasse passer pour folle et qui sera arrêté par Fouquier-Tinville pour modérantisme et qui ne devra son salut qu'au 9 Thermidor. Et Montané essaye de voir s'il n'y a pas des complices, évidemment. Elle répond toujours très dignement. Et on commet d'office un avocat. À l'époque, il y en avait encore, on l'appelait des défenseurs officieux, mais on commet d'office un avocat, qui est le fameux Chaumont-Lagarde, qui sera après l'avocat de la reine. Il est jeune et il va faire quelque chose d'admirable. Pourquoi ? Parce que le tribunal, un certain nombre de gens veulent la sauver, parce qu'elle est quand même formidablement digne, etc.
C'est une héroïne tragique, antique.
C'est une tragique, antique. Et il peut la faire passer pour folle. Il sent. Mais elle lui dit non. Elle lui fait un geste. Il le lit dans ses yeux, dit Michel. Il le lit dans ses yeux, c'est ça. Et il fait une plaidoirie qui, à mon avis, est admirable. Parce que c'est le contraire de ce que fait l'avocat de Ceausescu, par exemple, dans ce fameux procès effrayant avant qu'il ne soit exécuté. Non. Il fait... C'est très court, c'est un travail admirable. Il commence par dire, écoutez, vous avez quelqu'un qui avoue tout. Il avoue la préméditation. Elle ne cherche même pas à justifier. Elle avoue tout. C'est sa seule défense. Alors il dit cette abnégation de soi-même admirable, ce calme extraordinaire, ne peuvent s'expliquer, sont hors de la nature. C'est-à-dire qu'il laisse entendre quelque chose. Puis, mais
là, il se reprend
tout de suite. Cela peut s'expliquer, non pas par la folie, mais que par le fanatisme, que par le famatisme qui a mis dans sa main un poignard. C'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'il a des complices. Mais enfin, c'est le fanatisme qui a mis dans sa main. Et là, il y a une phrase extraordinaire, il jette dans la balance cette considération morale. Il fait quand même une défense. C'est ça qui est extraordinaire. Il fait une défense qui n'est pas vulgaire, qui n'est pas... Et bon, il sait qu'il n'a aucune chance. Bon, elle est condamnée à mort, elle est exécutée. Et là, j'en reviens à Michelet. Il décrit... Et alors, chaque fois... Michelet ne les aime pas, souvent, ceux qui sont exécutés, surtout Marie-Antoinette, d'ailleurs. Mais il les décrit dans la charrette, et on sent les chaos de la charrette, les mains liées derrière le dos. Et pour Charlotte Corday, il dit, il y avait un orage, l'orage précédait la charrette. Et quand elle arrive, elle monte, et elle dit, c'est formidable, une sorte de singulière majesté. Dans sa robe rouge de parricide, et il parle de sa singulière qui était auréolée, qui était auréolé par le couchant. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Et après, l'indignation, il frémit l'indignation, puisqu'Annette Dubourreau a souffleté la tête de Charlotte Corday.
Oui.
Ça, c'est le premier procès.
On peut dire que presque toujours, enfin pas presque toujours, mais très souvent, lorsqu'on comparaissait Charlotte Corday, évidemment, elle est victime et coupable d'un véritable crime. Elle a assassiné Marat. Mais un grand nombre de ceux qui comparaissaient passaient là uniquement pour des raisons politiques. Absolument. Or, quand on passait devant le tribunal révolutionnaire, ça risquait fort de se terminer dans la charrette et sur l'échafaud.
Alors, il y avait quelques personnes qui étaient acquittées de temps en temps. Mais quand il y a les Girondins, d'ailleurs là c'est Michelet qui dit, il n'y eut aucune hypocrisie dans ce procès dont on vit tout de suite qu'il n'était question que de tuer. Voilà. Et c'est formidable.
Pour ça, vous parlez des Girondins, la chute des Girondins.
21 Girondins qui sont suspects, qui sont en opposition politique. Ils sont pour une France fédérale, on n'entend pas dans le détail. Mais c'est des fondateurs de la République. Ils ont voté la mort du roi. Ce sont vraiment des révolutionnaires. Et ils sont poursuivis pour modérantisme, pour toutes ces choses. On va les tuer. Ils se défendent bien. Et là, c'était intéressant parce que là, il va y avoir une modification législative en plein procès. Il y a 8 jours qui sont au procès, ça dure. Le président qui est le président Herman est inquiet. Fouquier-Tinville est inquiet. Fouquier-Tinville va à la convention. Il dit, faut faire quelque chose. On fait un décret disant, lorsque les jurés s'estimeront suffisamment enfin formés, ils pourront arrêter le procès. Et donc, ce décret arrive, on arrête le procès et on condamne les Girondins à mort. Il y a Valazé qui se suicide. Et là, Michelet décrit encore une fois les charrettes octantes sur les pavés de la rue Honoré.
Et, oui, puisqu'on avait enlevé tous les saints.
On avait enlevé les saints. Et alors là, il y a une scène absolument extraordinaire. Cette scène, c'est la scène même des Carmélites, qui seront les dernières exécutées pratiquement en Messidore ou au début de Thermidor, les Carmélites de Compiègne, qui a été reprise par les Dialogues des Carmélites et le grand opéra de Poulenc, Dialogues des Carmélites.
Sublime,
et alors, dans les Carmélites, on sait qu'elles sont, ça c'est vrai, elles sont montées à l'échafaud, une à une, et chantant le Salve Regina, je crois, et la dernière voix, celle de Blanche dans l'opéra, est la seule à chanter quand elle est coupée. Et Michelet décrit la même scène pour les Girondins. Il dit, les Girondins sentaient la Marseillaise. Et ils montaient les uns après les autres, et le chant s'amenuise petit à petit, jusqu'à la grande et splendide voix de Vergniaud, fauchée en plein couplet. Ça.
Magnifique. Terrible scène.
Alors, je vous dis tout de suite que c'est pas vrai.
Ah, mais c'est pas vrai, mais
non,
c'est tellement bon.
On s'en est aperçu après. Mais il l'a pris dans l'histoire des Girondins, quand même, de Lamartine. Donc c'est peut-être une idée poétique.
Si ce n'est vrai dans les faits, c'est vrai dans l'impression.
Magnifique.
Oui, voilà, exactement.
Et après, on juge Marie-Antoinette.
Alors, justement, le procès de Marie-Antoinette, vous avez parlé d'Hermann, vous avez parlé de Fouquier-Tinville, le président et l'accusateur public célèbre de ce tribunal révolutionnaire, qui vont donc juger et qui vont accabler Marie-Antoinette. On va peut-être pas revenir sur ce procès de Marie-Antoinette que j'ai eu l'occasion de raconter. Voilà, on en a beaucoup parlé. En revanche, il y a 3 procès sur lesquels il faut qu'on revienne. Toujours devant
Marie-Antoinette, il y a quand même une chose que je veux dire, c'est que Michelet n'aime pas. Et que c'est une des rares fois dans son livre où il fait une note. Ce que font les historiens, une note pour expliquer pourquoi elle est coupable. Mais il n'empêche que quand elle part dans la charrette, il a toujours, comme toujours, la même tendresse pour ceux qui vont mourir.
Oui, magnifique. On pense aussi toujours au fameux croquis absolument terrible de David.
Dans la charrette, justement.
Dans la charrette, avec le petit bonnet. Ces 3 procès dont j'aimerais qu'on parle, alors en précisant bien qu'il y a eu plus de 4000 condamnés par le tribunal révolutionnaire.
4000 condamnés, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a 2000 jusqu'en Prairial. Et que en Prairial, Messidor et Thermidor. Et
ensuite, ça se concentre.
Il y en a 2000 encore. Ouais, c'est-à-dire qu'il y en a les 3 derniers mois, il y en a 2000 encore.
Et alors, justement, on a l'impression que cette machine créée par Danton, peu à peu.
Ça va le bouffer.
C'est ça. Elle va dévorer ses enfants. À commencer par Danton.
Je relisais ce matin les
minutes du procès avec les déclarations de Danton.
C'est formidable.
Quel lyrisme.
Danton, c'est un personnage formidable dont on sait maintenant qu'il n'était peut-être pas très honnête, mais ça n'a aucune importance. C'est un révolutionnaire magnifique. Il a le sens de la formule, je vous le disais tout à l'heure. Il est formidable. Et quand il est arrêté, il n'y croit pas. Et il pense que sa parole va y arriver. Et donc, sa parole, petit à petit, retourne le tribunal, n'est-ce pas? Retourne le tribunal. Et ils le sentent bien. Il faut qu'il y ait un vide, il est très inquiet. Et petit à petit, et alors là, il y a un nouveau décret qui intervient de la Convention, qui dit, on pourra, lorsque les accusés auront injurié le tribunal, on pourra les expulser. Et donc, Danton est condamné avec un certain nombre d'autres personnes, avec Camille Desmoulins. Quand ils seront il aura des beaux formidables sur l'échafaud. Il veut embrasser Camille Desmoulins, le bourreau s'y oppose. Et Danton lui dit, imbécile, est-ce que tu empêcheras nos têtes de s'embrasser dans le panier? Et après, il dit, montre ma tête au peuple, elle en vaut la peine. C'est formidable, c'est terrible, parce que Danton, c'est un fondateur de la République, c'est lui qui a fait la République. Et quand c'est fini, la Michelet dit, ils ont décapité la France. Bon.
Et le tribunal a tué celui qui l'avait créé, faut pas l'oublier. Et alors, on va plus loin, puisque c'est le même tribunal révolutionnaire qui va juger en Terminor Robespierre et tous ses, ses amis.
C'est extraordinaire, parce qu'on est arrivé à une situation où on ne juge même plus. Et là, Michelet aussi. Je cite encore Michelet parce que c'est extraordinaire. Robespierre, il est impitoyable avec les gens qu'il décrit, mais quand ils vont mourir, il est formidable. Et il décrit Robespierre à l'hôtel de ville. On lui donne un appel à l'insurrection. Et alors, il commence à signer Rob. Et il dit, mais sa conscience arrêta, il jeta sa plume. Et on lui dit, signe. Et il dit, au nom de qui? Et il dit, par ce mot, il signait sa perte. Mais il s'inscrivait aussi dans l'avenir et dans l'histoire. Robespierre mourut en grand citoyen.
Roulé tambour.
Et quand Robespierre monte à l'échafaud, on lui arrache le bandeau, puisqu'il avait eu une balle qui lui a fait... Et Michelet met entre parenthèses, est-ce que ce ne serait pas le même que celui qui a souffleté la tête de Charlotte Corday? Il arrête sur l'histoire de France, là. Il l'arrête là. Alors, on sait que la signature aussi, Mathiès dit que c'est pas vrai, mais enfin, ça fait rien. Il a eu le document en main. Mais Mathiès explique que le document est parti plus tôt. Mathiès, très important, grand historien de la Révolution. Et moi, quand mon père m'a vu passionné par ça, il m'a dit, tu devrais lire Mathiès que j'ai là. Et j'ai lu Mathiès qui 80 ans après, corrige Michelet, mais a une admiration sans borne, évidemment.
L'épilogue, Henri Leclerc, c'est que, on parlait d'Hermann, on parlait de Fouquier-Tinville, eux aussi vont être les victimes.
Ce qui est extraordinaire, c'est que Hermann et Fouquier-Tinville, c'est plus Hermann d'ailleurs, c'est Dumas, mais il est mort avec les Robespierristes parce qu'il est parti à l'hôtel de ville, montrant bien la collusion parfaite entre le tribunal et les Robespierristes. La Convention s'émeut brusquement. À ce moment-là, on ne faisait plus que vérifier les noms. Hein. On ne les jugeait plus, il n'y avait plus d'autres noms, il n'y avait plus de témoins.
Exécuté.
Et donc Robespierre est exécuté avec les autres. Michelet arrête son histoire de la Révolution. Et bonjour, la Convention termine dernière, quelqu'un dit, mais il faut qu'il y ait un vilain toujours en place. Et on les arrête, Hermann et les autres, et on les juge. On mettra le temps à les juger, on leur fera un vrai procès. Et ils partiront aussi dans la charrette.
Pour ceux qui nous ont rejoints en cours, vous aurez reconnu évidemment la voix inimitable ou très imitable d'Henri Leclerc qui nous racontait le tribunal révolutionnaire. Merci beaucoup.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Patrick sur le tiercé.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Patrick, qui nous l'a envoyé par mail via le site internet d'Europe 1, qui vous demande de revenir sur les origines du tiercé.
Et oui, alors on a choisi cette question pour aujourd'hui, puisque nous sommes le 22 janvier 2014, ça fait donc exactement 60 ans que le tiercé existe. Il a été créé le 22 janvier 1954. Il se courait sur l'hippodrome d'Anguin, ce premier tiercé. Alors, vous savez que des courses de chevaux, il y en a eu depuis très longtemps. Je ne vais pas revenir à Rome et à Byzance, bien entendu, et à l'époque des auriges. Il faut savoir que en Angleterre, au XVIIe siècle, on remet les courses au goût du jour, hein, sous le règne de Charles II d'Angleterre. À ce moment-là, les paris sont réservés évidemment à une certaine élite. Ils ne sont d'ailleurs officiellement pas autorisés, mais on est quand même au pays des bookmakers. Hein, et donc c'est bien l'Angleterre qui va développer tout ça. Et au milieu du 19e siècle, alors la mode des courses se répand dans des proportions très importantes, avec en France la création de l'hippodrome de Longchamp, sur ce qui était le grand champ de manœuvre de Longchamp, dans le bois de Boulogne, donc en 1857. Une décision qu'on doit au duc de Morny, vous savez, le frère naturel de Napoléon III. Mais en 1887, la fête est finie, si je puis dire. L'État, qui regardait depuis longtemps les paris d'un très mauvais œil, décide de les interdire. Il va falloir la loi du 2 juin 1891 pour que on fasse quelques concessions. En 1891, il n'est plus question de... Si vous voulez, les paris vont devenir autorisés, mais dans des conditions très très précises. Notamment, on a des sociétés de paris mutuels qui sont censées reverser 5% du montant des engagements à l'État. C'est ce pari mutualisé qui va donner naissance en 1930 sous la direction d'André Carus au PMU, au Paris Mutuel urbain. Et puis donc, le 22 janvier 1954, on crée ce fameux tiercé. Alors depuis, il y a eu bien des choses. Hein. Il y a eu le quartet, le quintet plus. Un turfiste me disait ce matin, ah, quand il n'y avait que le tiercé, c'était tout de même le bon temps.